Vous écoutez IDFM, il est 14h.
Bonjour à tous, Audrey Lamolly et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée aux associations et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois l'association Entraide Scolaire Amicale, créée en 1969, agréée complémentaire de l'enseignement public et reconnue d'utilité publique. Depuis plus de 50 ans, l'ESA aide les enfants à réussir en proposant un accompagnement bénévole à des élèves que leurs parents ne peuvent ni aider ni faire aider, faute de connaissances et de moyens financiers. Entraide Scolaire Amicale, c'est ainsi 3500 bénévoles, plus de 4100 enfants et jeunes accompagné du CP à la terminale et 215 antennes locales réparties sur toute la France. Fondée sur les valeurs d'équité, de solidarité, de respect et de confiance, l'association lutte chaque jour contre l'échec scolaire. Pour nous parler de cette association, j'accueille cet après-midi Alain Macherzik, co-responsable de l'antenne de Conflans-Sainte-Honorine. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Alain.
Bonjour Audrey.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur notre invité dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Alain nous présentera concrètement ce que fait l'association. Et en dernière partie d'émission, nous reviendrons sur une étude d'impact qu'ont menée des étudiants sur les actions d'entraide scolarité amicale. Alors tout d'abord, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance, si bien sûr vous êtes partant.
J'y suis.
Alors c'est parti Alain, est-ce que tout d'abord vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours en dehors de l'association? Qui êtes-vous Alain?
Alors mon parcours, je vais commencer peut-être par mon parcours professionnel. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait mes études à Strasbourg dans une école qui s'appelait à l'époque l'École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg. Et j'ai fait une section qui s'appelait à l'époque aussi génie climatique et thermique, et que l'on appelle maintenant plutôt génie climatique et énergétique. Spécialisation donc climatisation, chauffage, ventilation, voilà un petit peu dans le bâtiment. J'ai travaillé principalement, la majeure partie de mon activité professionnelle, je l'ai faite dans un bureau de contrôle du bâtiment, le Bureau Veritas, qui avait pour mission de contrôler les constructions de bâtiments, d'habitations, de bureaux ou d'établissements recevant du public. Et dans le cadre de ces constructions d'habitations, de bâtiments recevant du public, j'avais personnellement un agrément relatif à la protection des bâtiments contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments.
Donc là, aujourd'hui, vous êtes retraité ?
Je suis retraité depuis 2014. J'ai travaillé jusqu'à mes 64 ans pour finir un grand projet qui me tenait vraiment à cœur, qui est un bâtiment emblématique, je dirais, sur Paris, qui est la Fondation Louis Vuitton.
Donc vous êtes bénévole à la Fondation
Alors,
Louis
non,
Vuitton?
Alors non, c'est pendant mon activité professionnelle.
D'accord, vous avez travaillé
J'ai travaillé sur ce projet. Enfin, quand je dis j'ai travaillé, en fait, le bureau de contrôle était là pour vérifier l'application des règlements de sécurité applicables à ce type de bâtiment pour assurer la protection du public qui y est accueilli.
Et en plus, il y a un lien, parce qu'il me semble que la Fondation Louis Vuitton, elle œuvre aussi en direction des jeunes, des quartiers populaires.
Tout à fait. Mais là, c'était tout à fait en dehors de mon engagement bénévole. C'était vraiment une activité professionnelle. Voilà. Je dirais que ma fin de carrière s'est terminée avec la fin de ce chantier, puisque j'ai terminé fin décembre et la commission de sécurité pour l'ouverture du bâtiment a eu lieu en janvier 2014.
Et alors, est-ce que vous aviez, on va parler de vos fonctions après au sein d'Entraide Scolaire Amicale, mais est-ce que vous aviez d'autres engagements associatifs auparavant ou c'est à la retraite, vous vous êtes dit, allez, je deviens bénévole?
Non, mon engagement associatif ne date pas de la retraite. En fait, tout mon parcours associatif remonte à plus d'une trentaine d'années. Voire même plus, puisque j'ai commencé en sortant de l'école, je suis sorti de l'école en 71. Et là, j'ai commencé effectivement un parcours associatif en tant que trésorier dans une association qui faisait de la danse sportive. Ça a duré 2 ans. Après, on crée une famille, on a des enfants, on se retire un petit peu de cette activité. Et puis, j'y suis revenu en fait en 82 lorsque je suis arrivé à Conflans. Là, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était très engagé dans la vie associative, qui était mon voisin d'en face et qui très très vite m'a, je dirais, entraîné dans son sillage pour travailler dans des associations. J'ai commencé par le comité de quartier, j'ai continué par un engagement au sein de la Fédération des parents d'élèves, d'abord en tant que parent délégué dans la classe de ma fille, de ma première fille, après au conseil local de cette fédération, puis en tant que, membre des conseils d'administration, aussi bien du collège que du lycée. Donc ça a été une grosse partie de mon engagement associatif. Et à la suite de ça, j'ai profité de toute cette expérience que j'avais accumulée pour créer quelque chose qui me tenait à cœur, qui était la création d'une activité sur Conflans qui était la danse à deux, donc la danse en couple, qui n'existait pas en tant que telle à Conflans. Et donc,
Vous pratiquez-vous ?
Que je continue à pratiquer, bien sûr. Et donc, j'ai créé cette section au sein d'abord d'un comité de quartier. Et puis, au vu de l'extension de cette activité, on m'a demandé de m'intégrer à une association multisport pour assurer un développement correct de la section. Donc, c'est à ce titre-là qu'au début des années 90, je suis rentré à l'Union sportive de Conflans, qui est la plus grosse association sportive de Conflans. Et au bout de quelques années, le président partant, le nouveau président a souhaité à ce que je l'accompagne en tant que vice-président pour reprendre le flambeau à la tête de cette section, de cette association. Et au bout de 6 ans, on s'est retrouvé sans président. Et en tant que vice-président, j'ai été fortement sollicité pour reprendre les rênes de
l'association. Souvent, hein, c'est l'avenir du vice-président.
C'est souvent ça. Et fort heureusement, on avait prévu dans nos statuts que le président ne pouvait pas rester plus de 10 ans en poste.
Intéressant. Ça veut dire qu'il y a déjà une attention portée au renouvellement des instances dirigeantes.
Tout à fait. C'était quelque chose, si vous voulez, quand on a repris l'association, qu'on a revu les statuts, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place pour éviter ce qui s'était passé avant, où faute de dirigeants aussi derrière pour reprendre, on a eu un président qui a été plus de 20 ans président. Donc moi, j'ai voulu casser avec ça et puis dire, au bout de 10 ans, quoi qu'il en soit, il faut absolument assurer le renouvellement des cadres dirigeants.
Donc vous êtes retrouvé président d'une association sportive ?
Absolument, qui regroupe une 14 sections et qui regroupait à l'époque environ 2500-2700 adhérents.
Et alors, est-ce que vous savez d'où vous vient cet engagement associatif ? C'est votre entourage, votre éducation ?
Je pense que c'est mon éducation et puis c'est pour moi un besoin de redonner aux autres ce que j'ai eu la chance de recevoir. Enfin, quand je dis la chance, je mets la chance entre guillemets parce que c'est pas de la chance, c'est le fait d'avoir effectivement on m'a ouvert des portes. Et j'ai profité des occasions qui m'étaient données de pouvoir poursuivre mes études.
Quand vous dites « on », c'est votre famille ?
C'est ma famille. Enfin, ma famille, si vous voulez, a toujours fait en sorte que l'on puisse effectivement faire ce que l'on avait envie de faire, de faire les études, même si ça n'a pas été facile, parce qu'à l'époque, papa travaillait tout seul, maman était à la maison. Quand je suis parti à Strasbourg, ça fait des frais. Mais il n'empêche qu'il y avait cette volonté, effectivement, de dire ils ont un potentiel, il ne faut pas le gâcher, quelque part.
Alors, on va revenir après sur comment vous êtes arrivé à l'ESA, mais justement, c'est une association qui lutte contre l'échec scolaire. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier souvenir d'école ?
Le premier, pas vraiment directement, mais je me souviens de choses qu'on me, je dirais que l'on me raconte. En fait, je suis pas allé à la maternelle. Et en fait, je suis arrivé directement
au CP.
Au CP. Et je me suis retrouvé dans une classe où vous aviez des enfants qui avaient déjà appris un petit peu à manier l'écriture, enfin voilà, des choses comme ça.
Et, se connaissaient aussi.
Qui se connaissaient aussi. Une période pas toujours très facile.
Donc d'adaptation.
D'adaptation.
Déjà voilà. Que le CP, même quand on voilà. a fait la maternelle, il faut s'adapter. Et alors, comment s'est passée votre scolarité? Est-ce que vous étiez un bon élève? Est-ce que vous aviez des difficultés à l'école?
Je crois pouvoir dire que j'étais un bon élève, à telle enseigne qu'à l'époque, on était dans des classes à double niveau. Enfin, j'étais dans une classe à double niveau. Et au bout d'un trimestre, l'instituteur a proposé à mes parents, compte tenu du fait que j'avais terminé ce que j'avais à faire dans ma section et je m'intéressais à ce qui se passait au-dessus, a proposé à mes parents de me faire passer dans le niveau supérieur. Donc de faire sur une année, j'ai dû faire un CE1, CE2. Enfin, je le situe à peu près à cette époque-là. Donc j'ai fait un CE1, CE2. Et je me suis retrouvé là, je dirais, plutôt dans les élèves moyens. Enfin,
comme on saute un niveau, forcément.
Voilà. Et cette expérience, en fait, c'est une expérience que je n'ai jamais voulu renouveler avec mes enfants.
De sauter une classe.
Absolument.
D'aller plus vite que la musique.
D'aller plus vite que la musique. Parce que, y avait eu effectivement cette difficulté au moment du passage d'une classe à une autre. Et puis, il y a aussi le manque de maturité que lorsque vous arrivez dans les classes supérieures. Moi, j'ai toujours le souvenir, quand je suis arrivé j'ai fait mon lycée à Argenteuil, dans un lycée technique. J'ai été interne. Je suis arrivé là-bas, je devais avoir 14 ans. En plus de ça, je n'étais pas très grand. Donc, les gens, quand on est arrivé le premier jour, ils demandaient à mes parents, mais il rentre en cinquième, ce jeune, alors qu'en fait, j'étais en train d'arriver pour rentrer en seconde. Et après, ça m'a suivi pendant un certain temps, si vous voulez, ce manque de maturité. Et avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être fait autre chose à côté de mes études si j'avais eu, effectivement, si j'avais été dans ma classe, normale.
Et avec peut-être un petit peu plus de temps pour les loisirs ou pour...
Oui, encore que j'en ai pas... Enfin, jusqu'à la terminale, c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de loisirs, mais à partir de mes études supérieures, là, j'ai repris, effectivement... les loisirs à titre personnel. J'ai commencé avec des amis de l'école à faire du judo, à faire des choses comme ça. Donc, en parallèle de mes études, j'ai commencé là vraiment à m'engager dans le sport.
Et alors, comment vous avez connu l'ESA ?
Alors, l'ESA, c'est... En fait, c'était un projet... lorsqu'on me parlait de la retraite, je savais ce que je voulais faire. C'est-à-dire que pendant toute mon activité professionnelle, je m'étais toujours investi dans de la formation. J'avais toujours eu l'envie de passer ce que je savais. Et donc, je savais qu'à la retraite, je me retrouverais dans ce type d'activité. Donc, j'avais ça en tête. Et quand je suis arrivé à la retraite, j'ai fait un petit peu le tour des associations qui existaient à la fois sur Conflans et à l'extérieur. Et je suis tombé effectivement sur l'ESA, qui avait une éthique et un fonctionnement qui correspondaient à ce que je recherchais.
Et alors là, c'était un petit peu différent comme association. Vous aviez l'habitude d'associations plus loisirs, sportives.
Oui.
Là, c'est aider des enfants en difficulté.
Oui, mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même
naturellement.
Oui, enfin bon, j'ai accompagné mes filles quand elles en avaient besoin. J'ai accompagné un neveu, j'ai accompagné une nièce. Enfin, ça a toujours fait partie de moi.
Et alors, quelle est l'histoire de cette association ? Parce que l'antenne de Conflans a été créée en 2014. Mais l'ESA, c'est ce que je disais en introduction, il y a plus de 51 ans.
C'est 69, puisqu'on a fêté l'an dernier nos 50 ans. Alors l'histoire, c'est en fait, après les événements de 68, une personne, la présidente fondatrice, qui avait des enfants qui réussissaient bien, qui fonctionnaient bien, et qui... qui a eu conscience que, en fait, ses enfants étaient favorisés par rapport à d'autres enfants. Et donc, elle a eu la volonté, ça a commencé comme ça. Vous faites des études, vous réussissez, d'autres n'ont pas votre chance. Je vous propose d'aider ces enfants. Donc c'est parti comme ça sur Paris, d'une antenne sur un arrondissement, et petit à petit ça a cru jusqu'à devenir ce qu'elle les a aujourd'hui.
Et on connaît tous autour de nous, ou ça nous concerne même nous, cette difficulté à l'école, même vous, bon élève, on rencontre tous à un moment donné en tant qu'élève des difficultés, que ce soit d'ordre relationnel, que ce soit lié aux apprentissages, que ce soit lié à la sphère personnelle qui commence à trop infuser dans la sphère scolaire. On a tous des exemples comme ça. Merci beaucoup Alain d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que fait Entraide scolaire amicale juste après avoir écouté Dollar d'Electric Guest sur IDFM Radio Anguin.
Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être.
Sur IDFM Radio Anguin, dans l'émission La Parole aux Associations, nous recevons cet après-midi Alain Macherzik d'Entraide scolaire amicale. Alors, Alain, que fait concrètement l'association ?
Alors, si vous permettez, Audrey, peut-être quelques mots pour dire un peu qui sont nos bénévoles, qui sont les enfants aidés. En fait, notre association est une association, je dirais, un petit peu atypique, dans la mesure où, pour aider tous ces enfants, nous avons une structure qui est quasiment bénévole. Notre association n'a actuellement que 2 salariés, une secrétaire et un directeur des opérations. Toutes les autres fonctions support au niveau national, comme au niveau des régions et des antennes, sont des fonctions qui sont assurées quasiment partout par des bénévoles. On a un appui avec du mécénat de compétences et des volontaires civiques, mais en termes de... sinon, pour tout ce qui est activité de l'association, nous sommes purement bénévoles. À titre d'exemple, si on prend le compte emploi ressources, en prenant en compte l'apport des bénévoles au fonctionnement de l'association, nos frais de fonctionnement représentent seulement 4% de ce que sont les dépenses totales de l'association. Tout le reste va à notre mission sociale qui est de faire de l'accompagnement scolaire auprès des enfants.
Alors, vous avez évoqué le mécénat de compétences. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ?
Alors, le mécénat de compétences, pour ce qui nous concerne à l'ESA, c'est principalement du temps partiel senior avec la Fondation Orange. Ce sont des salariés, des collaborateurs de chez Orange qui sont affectés à l'ESA pour une durée de 3 ans et qui donnent 3 jours par semaine à l'ESA.
Et qui administrent les antennes ou qui sont bénévoles eux-mêmes?
Certains administrent les antennes, mais ce n'est pas là qu'est leur principal apport. Le principal apport, il est plutôt au niveau des supports, je dirais, au niveau national, sur tout ce qui est activité type statistique. Les statistiques ont été reprises cette année.
Les fonctions support.
Les fonctions support. Dans certaines grandes antennes, le mécénat de compétences peut apporter un appui, mais un appui, je dirais, au responsable qui est un bénévole, qui chez nous est toujours un bénévole.
Et alors les services civiques, les volontaires en service civique, vous en avez beaucoup à l'échelle nationale ?
À l'échelle nationale, on doit en avoir actuellement 10.
D'accord, qui viennent aider.
Qui viennent aider pour une durée de 7 à 8 mois, je crois. Qui viennent aider donc l'association, mais là aussi, ils sont plutôt dans des fonctions support au niveau du siège. On en a quelques-uns, mais dans des grosses antennes. Oui. On en a à Nantes, à Marseille, à Lyon. Mais ils sont plutôt à ce niveau-là, ils ne sont pas au niveau d'une antenne. Une antenne comme Conflans n'a pas de volontaire civique.
Et pas de mécénat.
Pas de mécénat de compétences.
D'accord. Alors, vous êtes combien de bénévoles sur l'antenne de Conflans ?
Actuellement, sur l'antenne de Conflans, on est 10 de bénévoles et on accompagne 12 d'enfants. On est 2 bénévoles à accompagner 2 enfants.
Et alors, quel profil de ces bénévoles ?
Alors, le profil de ces bénévoles, contrairement à une idée répandue qui veut que ce soit des retraités principalement qui fassent ce type d'activité, à l'ESA, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, puisqu'en fait, 50% de nos bénévoles sont des actifs, 33% sont des retraités et 14% sont des étudiants ou des lycéens.
Alors, comment ils arrivent chez vous ? Vous allez démarcher
Alors, ils arrivent chez nous par différentes voies. On a sur notre site, on a une page « Comment devenir bénévole ». On a une carte interactive qui permet aux gens, en fonction de leur localisation, de trouver effectivement l'agence la plus proche de chez eux ou de proche de leur lieu de travail. Ça, c'est un premier point. Nous avons des annonces qui paraissent dans Tous Bénévoles et puis France Bénévolat.
Qui sont des sites ressources hein, pour qui tous sont des ceux qui cherchent voilà, à faire du bénévolat.
Voilà, ce sont des sites ressources. Donc là, on a des annonces pour toutes nos antennes. On a des annonces ciblées pour rechercher des bénévoles accompagnants pour les enfants.
Et un petit peu de bouche à oreille ?
Il y a du bouche à oreille, bien sûr. C'est un point important. Et puis, moi, j'essaye de... d'utiliser aussi les réseaux qui peuvent exister. On a sur Conflans, on a des pages Facebook du style Petit Service entre Conflanais, le Conseil Facebookal entre Conflanais. Donc, j'essaye de toucher tous ces éléments-là, sans oublier la presse municipale, puisque en début d'année, le Vivre à Conflans a consacré en septembre un article pour présenter l'accompagnement scolaire de manière générale et donc lancer un appel à bénévolat.
Et est-ce que vous avez des critères ou des compétences obligatoires avant de devenir bénévole chez vous ?
Pas de critères. En fait, je dirais pas de compétences particulières. En fait, chacun va aider au niveau qui lui convient. Et nous, les seuls critères que l'on peut avoir, c'est de s'intéresser aux autres, d'avoir de l'empathie, d'avoir envie de donner aux autres ce que l'on sait.
Envie de transmettre.
Envie de transmettre, savoir écouter, ne pas avoir de préjugés. Voilà, c'est plutôt, je dirais, des compétences du type savoir-être que savoir-faire que l'on privilégie pour recruter nos bénévoles.
Alors, ces bénévoles, qu'est-ce qu'ils font concrètement à l'ESA ?
Alors, ces bénévoles, lorsqu'ils sont recrutés par... en fait, comment on fonctionne ? C'est le co-responsable d'antenne...
Vous ?
Qui va rencontrer chaque bénévole individuellement pendant à peu près une heure, qui va voir avec lui quelles sont ses compétences, qu'est-ce qu'il souhaite donner comme temps à l'association, à quel moment il souhaite le donner, quel niveau il souhaite. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un certain diplôme qu'on a envie de travailler dans les classes collège, voire lycée. Après, c'est l'envie de chacun. Je dis toujours, on n'est pas dans une association pour travailler ou pour s'embêter. On est là avant tout pour se faire plaisir. Et donc
pas forcément reproduire ce qu'on sait faire par cœur depuis 30 ans.
Surtout pas. Je dirais surtout pas parce qu'en fait, quelque part, l'accompagnement, c'est aussi une remise en cause de soi-même. Il faut être capable de se mettre à la place de l'enfant, d'essayer de comprendre pourquoi il ne comprend pas telle ou telle chose, pourquoi il n'a pas intégré tel ou tel, tel élément de l'activité scolaire.
Donc il y a cette premier temps d'information et d'introduction au bénévolat où vous échangez individuellement avec les bénévoles pour les préparer et valider avec eux qu'ils sont dans la bonne association et que
Absolument.
Le projet leur convient.
Tout à fait. Et que leur profil et que leur éthique, entre guillemets, correspond à celle de l'association.
Et l'éthique de l'association, c'est laquelle ?
Ben en fait, on est une association donc d'entraide. On est apolitique et non confessionnel. Ça, c'est quelque chose qui pour nous est très important. Et si vous voulez, on est là pour aider des enfants. Vous l'avez dit tout à l'heure que les parents ne peuvent pas aider, ne peuvent pas faire aider. Donc on est là pour aider effectivement des enfants en difficulté scolaire. On n'est pas là pour faire passer quelqu'un de 10 à 12 ou 13. C'est notre sujet pour nous n'est pas là.
Donc d'intervenir sans jugement, avec toute la bienveillance possible.
C'est pour nous c'est le critère principal. C'est effectivement la bienveillance. Je disais la qualité d'écoute, savoir se mettre à la place de l'autre. Être capable d'entendre des choses qui peuvent être dérangeantes quelquefois.
Ou pas dans nos habitudes.
Absolument, voilà. Si vous voulez, moi, en tant que... parallèlement à ces entretiens avec les bénévoles, j'ai les mêmes types d'entretiens avec les enfants et les parents. Donc, je vais dans chaque famille... je vais passer une heure avec eux pour voir quelle est la problématique, quelles sont les difficultés de l'enfant.
Donc vous allez à domicile ?
Absolument. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais notre accompagnement, en fait, on dit un enfant, un bénévole, une fois par semaine, au domicile de l'enfant. Alors, quand on dit au domicile de l'enfant, toujours en présence d'un autre adulte. Notre bénévole ne doit jamais se trouver seul avec l'enfant dans le logement.
pour des raisons qu'on comprend, qui sont des raisons, on met pas un adulte avec un enfant tout seul dans sa chambre ou dans sa, dans la maison, mais j'imagine que c'est aussi pour faire du lien avec
la
famille.
Il y a deux aspects. Il y a d'une part, je dis toujours, la protection du bénévole et la protection de l'enfant. Ça, c'est la première chose. Mais pour nous, plus important, le fait de le faire dans la famille, c'est que ça nous permet de créer également un lien avec la famille et ça permet également d'aider la famille à prendre conscience de l'importance qu'il y a à s'intéresser au travail scolaire de son enfant et d'aider à changer des habitudes. C'est-à-dire que on fait pas les devoirs avec la télévision en route, on fait pas les devoirs avec la télé, avec la musique, avec
d'avoir un espace de travail dédié,
d'avoir un espace de travail dédié où on peut effectivement. Alors quand je dis le il faut toujours un adulte avec le avec nous dans le logement, pour autant l'adulte, de mon point de vue, pendant la séance elle-même, ne doit pas se trouver dans la même pièce, pour que puisse se créer un lien entre un lien de confiance entre l'enfant et le bénévole, pour qu'il puisse avoir la liberté de s'exprimer complètement en dehors du cadre familial.
Il n'intervient pas dans la séance, quoi.
Pour moi, il n'intervient pas dans la séance. Et quand je pressens qu'il y a ce type de comportement potentiellement, je fais en sorte de dire clairement les choses pour que, effectivement, le bénévole, une fois qu'il va être dans la famille, il ne soit pas pollué, entre guillemets, par les attentes des parents derrière qui ne sont pas nécessairement celles de l'enfant.
Donc, en fait, vous faites un suivi de ces bénévoles pour réguler, si besoin, s'il y a beaucoup d'absences, si...
Alors, les choses sont très claires, si vous voulez. Les parents signent un engagement lorsque l'on prend en charge leur enfant en accompagnement. Et cet engagement est important pour moi sur deux points. C'est que, il y a en permanence un adulte. On n'est pas là pour faire du babysitting ou du... Enfin, voilà. Et deux, on respecte l'engagement du bénévole. C'est-à-dire que s'il y a des séances qui ont été prévues tel jour à telle heure, il faut faire en sorte, sauf cas particulier, de ne pas prendre de rendez-vous ces jours-là, d'être présent. Et si un jour il y a l'impossibilité d'être là, à ce moment-là, de prévenir le bénévole. Le bénévole, s'il un jour il se casse le nez, il se casse le nez une fois, la deuxième fois, c'est fini. C'est fini. Enfin, pour moi, c'est très clair. Si vous voulez, je dis toujours.
C'est des responsabilités partagées. Quoi.
Oui, mais je dis, c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on doit nous traiter différemment des autres. Je veux dire, on est dans le respect mutuel. Alors, je dois dire que depuis 5 ans, moi, je n'ai rencontré qu'une fois ce type de problème. Et c'est moi qui l'ai rencontré. Je suis arrivé un jour à un accompagnement et l'enfant était en bas en train de jouer. Ta maman n'est pas là. Ah non, elle n'est pas là, elle ne vous a pas prévenu. Et elle n'a jamais repris contact après. Donc, moi je l'ai eu, je lui ai dit, une fois ça va, maintenant, si vous ne revenez pas à des choses plus régulières, moi je ne peux pas continuer.
Et alors, quels sont les profils? On a parlé des profils des bénévoles. Quels sont les profils des élèves que vous accompagnez?
Alors, l'objectif de l'association, c'est d'accompagner les enfants le plus tôt possible parce qu'en fait, on n'est pas simplement dans l'accompagnement scolaire, on est aussi dans l'apprentissage de l'autonomie ou l'acquisition de l'autonomie. Et plus on les a tôt, plus on pourra les rendre autonomes pour la suite de leur scolarité. Et en fait, le profil des enfants qu'on suit au niveau national, c'est que l'on a 43% des enfants qui sont au collège, 35% qui sont dans le primaire et 22% seulement qui sont au lycée.
Et sur Conflans, vous êtes à peu près sur les mêmes proportions?
Sur Conflans, non, actuellement, on est plutôt collège et lycée.
Et alors, comment ils sont identifiés, ces élèves? C'est les familles qui lisent alors, qui tombent sur votre site.
Vous avez les familles, effectivement, qui, je dirais, sont proactives, qui vont aller chercher sur des sites, qui vont tomber sur le site de l'association, qui vont aller sur le site de la ville, qui vont trouver nos coordonnées. Et vous avez... Alors, ces familles sont pour nous plus difficiles à gérer. Parce qu'il faut arriver à déterminer, d'une part, s'il y a un réel besoin d'accompagnement, et puis de s'assurer que ces enfants rentrent bien dans les critères qui sont nos critères à nous, d'accompagner des enfants que les parents ne peuvent pas accompagner ou faire accompagner.
D'où l'importance de pouvoir s'entretenir avec les familles au préalable.
Ça va, quelquefois, ça commence même déjà dès l'entretien téléphonique, de prise de rendez-vous. Avec l'habitude, moi, je commence à détecter rapidement, si vous voulez, si la famille que j'ai au téléphone va effectivement rentrer dans nos critères ou pas. Et quand je l'explique, la plupart du temps, les familles comprennent très bien qu'elles ne rentrent pas dans nos critères et qu'il faut qu'elles trouvent d'autres solutions.
Alors, quelles sont les principales difficultés que vous repérez? Les familles, elles viennent vous voir pour... Pourquoi ?
Alors, en général, ça arrive par... Alors, quand c'est au primaire, c'est plutôt des difficultés d'apprentissage de la lecture, un peu d'apprentissage des maths. Mais quand vous êtes sur le collège ou le lycée, là, typiquement, c'est les mathématiques. C'est la porte d'entrée, c'est les mathématiques.
Donc, l'intervention de l'ESA... Est-ce qu'on peut dire que les devoirs, le côté très scolaire est un pied à l'étrier pour l'accompagnement et puis parfois un prétexte ou une excuse pour traiter l'élève plus dans sa globalité, son rapport aux autres élèves, son rapport aux apprentissages, travailler sur des savoir-être ou est-ce que vous êtes vraiment plutôt axé sur l'amélioration, je dirais, des connaissances académiques?
Alors, je dirais que l'amélioration des connaissances académiques n'est pas notre objectif. On n'est pas là pour faire de l'aide aux devoirs. Ce que je dois préciser, c'est que nous ne sommes pas des professeurs. Contrairement à ce que... Alors, c'est une idée qu'on a du mal à faire passer dans l'esprit des gens. Dès lors qu'ils ont quelqu'un qui vient aider un enfant, c'est que j'ai un professeur particulier, j'ai un enseignant qui vient m'aider. Et en fait, on n'est pas tous... Enfin, on a bien sûr parmi nos bénévoles des gens qui sont des enseignants ou d'anciens enseignants, mais la plupart de nos bénévoles n'ont jamais été enseignants. Moi-même, j'ai jamais été enseignant. J'ai fait de la formation professionnelle, mais pour autant, j'ai jamais été enseignant. Donc, et on est là. Alors, si vous voulez, je dirais l'approche, elle est effectivement très, très scolaire la plupart du temps. Mais très, très vite, nous, on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses derrière et qu'un enfant, il n'arrive pas à faire ses devoirs de maths parce qu'en fait, il ne comprend pas un énoncé, parce qu'il n'a pas toutes les...
Il n'est pas très concentré.
Il n'est pas concentré, il est un peu hyperactif, il est là, mais en même temps, il y a le chat qui vient jouer. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et puis, il y a aussi le fait que ces enfants ont un déficit culturel qui est en général assez important dans ces familles. Quand vous avez...
Culturel scolaire ?
Non, culturel.
Culturel.
Culturel. C'est-à-dire que quand vous avez un devoir de mathématiques où on parle de probabilité et puis que sur un jeu de 52 cartes, on vous demande quelle est la probabilité que sur le premier tirage, on tire une tête. Quand l'enfant n'a jamais vu un jeu de cartes de sa vie... Ça va lui être difficile de répondre à ce type de questions.
Oui, après moi, j'ai déjà vu des jeux de cartes et là, je ne saurais pas quoi vous dire, je ne saurais pas quoi vous répondre, mais j'ai compris ce que vous vouliez dire.
C'est un exemple, si vous voulez, qui montre effectivement que...
Il y a des enfants qui sont assez peu entourés de livres, de jeux... Ou l'ouverture culturelle, peut-être plus. Je pense qu'on a tous une culture culturelle. Enfin,
oui, quand je parlais de
fermée.
Et si vous voulez, bon, moi, je suis assez sensible à ça. Et j'en discute beaucoup aussi avec mon épouse qui est à lire et faire lire et qui lit en maternelle et en CP, CE1, CE2. Et c'est effectivement, quand on discute avec les enseignants, l'accès aux livres, l'accès à autre chose que la télé, que
l'imaginaire, la créativité, bien sûr. Et alors, j'imagine qu'on n'accompagne pas un enfant de CP, un enfant de quatrième ou un jeune de terminale de la même manière. Est-ce que vous, à l'ESA, vous accompagnez, vous formez de manière formelle ou informelle les bénévoles? Est-ce que vous avez des fiches pratiques? Est-ce que vous les accompagnez?
Le co-responsable d'antenne est là aussi, est là pour les accompagner. Il va accompagner les bénévoles à la première séance d'accompagnement. Le bénévole ne va pas arriver tout seul dans la famille. Moi, je lui donne pas l'adresse en lui disant tu vas à tel endroit, je vais accompagner, je vais faire les présentations, je vais y rester. Et après, nos bénévoles ont accès sur notre site à une partie sécurisée où on a des fiches méthodologiques, des fiches comment faire la première séance, comment aborder la première séance, comment. Et après, on a des formations en présentiel qui sont faites, j'insiste toujours là-dessus, elles sont faites non pas par des gens de l'ESA, sauf pour ce qui concerne les choses purement internes à l'ESA, mais pour tout le reste, ce sont des formations qui sont dispensées par des spécialistes. On va avoir un pédopsychiatre, on va avoir un anthropologue, on va avoir un sociologue. Enfin voilà, donc toutes ces formations sont gratuites pour les bénévoles. Il suffit de s'inscrire et de...
Et moi, je suis bénévole à l'antenne de Conflans-Sainte-Honorine. Je peux aussi vous appeler, vous, Alain, pour avoir des conseils. Parce que l'accompagnement... le lien de confiance qu'on essaye d'établir peut prendre plusieurs séances. Parfois, on se sent un peu démuni avec un enfant. Parce que souvent, c'est les parents qui veulent que l'enfant soit accompagné. L'enfant, lui, il n'a rien demandé.
Ça, c'est ce qu'on essaye de détecter aussi en tant que co-responsable. Moi, je discute aussi avec les enfants pour voir si effectivement, eux, ils ont la volonté d'être accompagnés ou pas.
Et alors, on peut être accompagné par l'ESA. Est-ce qu'on a une date limite d'accompagnement? On peut être accompagné du CP à la terminale?
Non, ce n'est pas l'objectif. La durée moyenne d'accompagnement à l'ESA doit être de l'ordre de 2 ans.
D'accord.
À peu près. Alors bon, il y a des cas particuliers. Moi, j'ai suivi une jeune qui arrivait d'Afrique, qui est rentrée en cours d'année au collège. Je l'ai suivie jusqu'à la terminale. Là, je dirais qu'après, il y a aussi l'attachement, le fait d'avoir détecté chez cette jeune fille qu'elle avait la volonté, effectivement, de réussir et de s'en sortir. Donc là, si vous voulez, une fois qu'on a... si on détecte ça, le bénévole a plus de mal, effectivement, de... Et puis, elle avait pas acquis suffisamment d'autonomie et de maturité pour pouvoir s'en sortir.
Et dans ces cas-là, vous réorientez, vous proposez peut-être d'autres structures à ces jeunes qui ne collent plus à ce que peut apporter l'ESA?
Oui, et je voudrais dire effectivement que nos compétences sont quand même sont limitées dans le sens où on ne va pas s'attaquer à tout ce qui est dyspraxie.
À des problèmes lourds d'apprentissage.
Voilà. Mmh. Hein, tout ce qui est dyslexie, dyscalculie.
Les 10, quoi.
Voilà, les 10.
Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté À côté de toi des Enfoirés sur IDFM Radio Anguin. À tout de suite.
Sans la nuit, pas de matin.
Sans la pluie, pas de beau jour.
Tu me dis, c'est un peu loin.
Mais je dis, pas si on court.
Si tu me tiens la main, eh ben ouais, tu me tiens la main.
Si tu me tiens la main, eh ben ouais, tu me tiens la main.
Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi, juste à côté de toi. Moi, je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi,
juste
à côté de toi. Je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi,
à côté de toi.
Sans le temps, pas de victoire.
Sans le vent, aucun espoir.
tu me dis, tu me dis, tu me dis, ça sent la fin.
Mais je dis, on verra demain. Car
si tu me tiens la main, et bye bye, ouais, tu me tiens la main.
Si tu me tiens la main, et bye bye, ouais, tu me tiens la main.
Moi, je veux rester là, à côté de toi. À côté de toi, moi, je veux rester là. À côté de toi, à côté de toi, à côté de toi, je veux rester là. À côté de toi, à côté de toi, à côté de toi, moi, je veux rester là. À côté de toi, à côté de toi.
Alors
on pourra même s'aimer, même si la terre se fait la belle. Même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, la vie est belle. Alors on pourra même s'aimer, même si la terre se fait la belle. Même si les hommes sont fêlés, la vie est belle, ouais.
Moi, je veux rester là, à côté de toi.
À côté de toi, juste.
À côté de toi, moi,
je veux rester là.
À côté de toi,
à côté de toi, juste
à côté de toi, moi,
je veux rester là. À côté de toi,
à côté de toi, juste
à côté de toi, moi,
je veux rester là.
À côté de toi,
juste
à côté de toi, juste
à côté de toi,
moi,
je veux rester là.
Vous êtes toujours dans l'émission La Parole aux associations. Alors Alain, vous souhaitiez partager avec nous plusieurs sujets. Et d'abord, celui des résultats d'une étude d'impact de votre action. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Oui, tout à fait. Alors, cette étude d'impact s'inscrit dans un processus pour nous d'amélioration continue de notre modèle, enfin de l'amélioration de la qualité de notre modèle et puis de vérification de la pertinence de notre modèle. Et en fait, tous les ans, on fait un bilan de l'année, un bilan bénévole, un bilan famille, mais ces bilans, jusqu'à maintenant, sont plutôt des bilans avec des questions assez fermées. Votre enfant a-t-il progressé un peu, beaucoup son comportement a-t-il changé? Enfin voilà, on reste sur des choses...
quantitatives aussi.
Assez quantitatives. Et en fait, notre action n'est pas seulement quantitative, elle est aussi beaucoup dans la modification du comportement, dans l'apport du bénévole à l'enfant d'abord et à la famille. Et en fait, on réfléchit depuis un certain temps donc à mesurer de façon plus précise et plus détaillée l'impact de l'action de l'ESA en accompagnant des enfants.
Alors, c'est des étudiants qui viennent d'où ?
Alors, cette étude, en fait, a été confiée à des étudiants qui sont à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Marie-Claude Stoffer, qui est notre responsable du secteur Yvelines Nord, a eu l'opportunité de rencontrer le directeur du laboratoire Parcours politique sociale territoriale et a eu l'opportunité donc de lui présenter l'ESA et de lui présenter le souhait qu'avait l'ESA de mesurer cet impact social.
Alors, qu'est-ce qu'il dit cet impact ?
Alors, c'est alors
j'ai, ce résultat d'impact.
Ce résultat. Pour préciser les choses, c'est une étude qui a été faite là à la fin de l'année dernière et qui intéressait deux antennes de l'ESA, l'antenne de Trappes et l'antenne de Guyancourt, et qui a intéressé une dizaine de familles et une dizaine de bénévoles. Et en fait, là, l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle était faite à partir d'entretiens semi-directifs. C'est-à-dire qu'on part. Enfin, on s'est attaché, enfin, les étudiants se sont attachés dans cette étude à la fois à mesurer des choses que l'on mesure dans nos questionnaires, mais aussi d'autres choses dans la façon de formuler les choses, dans ce qu'ont pu exprimer les bénévoles. Et ce qui ressort de cette enquête, moi, ce que j'en ai retenu, c'est ces deux choses. C'est d'une part la forte implication des bénévoles dans l'accompagnement. Et on s'aperçoit que là où nous, on dit un bénévole, un enfant une fois par semaine, bien souvent, on est à beaucoup plus que ça. On est avec des gens qui s'investissent complètement dans l'accompagnement des enfants, qui font beaucoup plus qu'une heure par semaine, comme pourrait le faire, quelqu'un qui est tarifé, qui est là pour une heure et qui après s'en va. Donc ça, c'est le premier aspect. Il y a un investissement personnel. Il y a un investissement bien souvent financier pour acheter des livres, pour emmener les enfants à la médiathèque ou à des expositions. Enfin voilà,
un investissement financier du bénévole.
Absolument.
D'accord.
Absolument. Qui est tout à fait qui est un investissement volontaire et qui n'est pas remboursé par l'ESA. Il faut savoir que nos bénévoles, compte tenu des finances de l'association, ne sont pas remboursés des frais qu'ils engagent. Donc
don de soi
sur tous les plans. Donc ça, c'est côté bénévole. Ça, c'est, alors, c'est des choses qu'on presse en nous, si vous voulez, mais que là, on mesure un peu plus avec, avec cette étude. Et puis, côté famille, on s'aperçoit que quelque part, on a détecté deux grandes familles de familles, je dirais. D'une part, celles qui viennent au départ purement pour une aide scolaire, c'est les mathématiques, c'est le français. Et puis, vous avez une deuxième famille, je dirais, qui est celle qui vient parce qu'elle a déjà une connaissance plus importante de ce que peut apporter l'association, de ce que peuvent apporter les différentes associations, les différentes ressources qu'il peut y avoir. Et donc là, la demande, elle peut être beaucoup plus large.
Et alors, il y a cette étude qui a été réalisée, qui est de plus en plus aussi demandée aux financeurs, de pouvoir évaluer l'action sociale,
voilà, c'est ça,
et de solidarité.
C'est ça. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait deux aspects dans cette étude. C'est de dire quel est le résultat, quel est l'impact de notre action. Et puis, ça répond aussi à un souci des financeurs de savoir effectivement comment est investi, entre guillemets, public ou privé.
Et alors, je crois que vous aviez envie aussi de nous parler d'un nouveau terme, enfin pas un nouveau terme, parce que ce terme existe depuis longtemps, mais une autre façon de parler de l'accompagnement, qui est le mentorat.
Absolument. L'entraide scolaire amicale fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Mentorat, qui comprend la FEF, Proxité, je vais peut-être tous les citer comme ça sera plus simple, Chemin d'Avenir, Nos Quartiers ont du Talent, l'Institut Télémac, Socrate et Article 1. Et ce collectif Mentorat a pour objectif de développer effectivement le mentorat en France et de faire reconnaître l'importance de ce mentorat. Il faut savoir qu'actuellement, en France, on a environ 22 000 mentors. Donc, chez nous, ça correspond à ce que sont nos bénévoles accompagnants. Et on se situe, je dirais, dans une relation avec l'enfant qui est différente de celle que l'on a quand on fait de l'aide aux devoirs ou des choses comme ça. On est plus dans une relation, je dirais, d'égal à égal, de respect mutuel, d'apprentissage mutuel.
Il n'y a pas que celui qui transmet le savoir et puis celui en face qui reçoit le savoir.
Absolument, c'est tout à fait ça. Et moi, j'avais coutume de dire, quand je faisais de la formation, le premier qui apprend, c'est celui qui dispense la formation. Et je dirais que quand on fait de l'accompagnement scolaire, nous, en tant qu'accompagnants, on apprend aussi beaucoup. On reçoit beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est
la façon aussi dont on se découvre pédagogue. On découvre aussi nos limites. Ça nous remet en question aussi dans notre façon de transmettre quand ça fonctionne aussi.
Quand ça fonctionne, et puis ça permet de voir d'autres modes de vie, de voir
de mieux comprendre l'autre.
Moi, ça fait partie aussi de mon engagement de dire de favoriser le vivre ensemble, parce qu'on dit toujours on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quand on connaît, on s'aperçoit que les gens ont beaucoup de préjugés, qui jugent sans savoir finalement. Et moi, le constat que je fais, c'est que dans ces familles, on a bien souvent beaucoup à apprendre en termes d'accueil.
Et alors, l'ESA fonctionne tellement bien que il y a une nouvelle antenne qui vient de se créer l'année dernière, non ? Cette année ?
Chez nous, les processus de création d'antennes sont un peu particuliers, c'est-à-dire que une nouvelle antenne ne peut se créer que s'il y a à côté un appui pour pouvoir l'accompagner. Et donc, en fait, moi, je recevais des demandes aussi bien de familles que de bénévoles de Cergy. Et sans antenne sur Cergy, ils arrivaient sur Conflans. Et puis, l'an dernier, deux jeunes actives, je vais dire, mobilisées pour ouvrir une antenne sur Cergy. Et donc, elles sont arrivées naturellement chez moi. On en a parlé avec Marie-Claude Stoffer, donc notre responsable de secteur, et on a accepté d'accompagner la création de cette antenne qui a fonctionné depuis l'antenne de Conflans pendant toute l'année dernière et qui a ouvert officiellement cette année. Elle est effectivement opérationnelle depuis septembre de cette année.
Donc là, ils cherchent des bénévoles, des familles.
Paradoxalement, ils sont dans une situation un peu différente de celle de la plupart des antennes. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup travaillé, elles ont fait beaucoup de recrutement au sein de l'entreprise où elles travaillent. Donc elles ont
un vivier
de bénévoles important. Et par contre, elles sont en train de faire leur trou sur Cergy et de se faire reconnaître actuellement sur Cergy. Donc, ce qu'il faudrait maintenant pour les accompagner, c'est d'avoir un ou une bénévole qui ait beaucoup plus de liberté pour pouvoir effectivement, je dirais, assister à des réunions avec les différents acteurs locaux.
À suivre, donc.
À suivre.
Merci beaucoup, Alain, ma chère Zig, d'être venu nous parler d'entraide, scolarité amicale. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment peut-on vous contacter, Alain ?
Alors, deux façons. Soit d'aller sur le site de l'entraide scolaire amicale. On a une carte interactive avec l'ensemble de nos agences, de nos antennes, pardon, et avec les coordonnées des différents responsables d'antenne. Là, vous retrouverez notre adresse courriel et mon numéro de téléphone. Je peux d'ores et déjà vous donner les adresses courriel des deux antennes de Conflans et de Cergy.
D'abord la vôtre,
vôtre. Donc la nôtre, c'est conflans@entraidescolaireamicale.org. Et pour Cergy, c'est cergy@entraidescolaireamicale.org.
J'ai été ravie de partager cette heure avec vous et vous souhaite encore beaucoup de plaisir et toujours plus de bénévoles pour continuer à accompagner un maximum d'enfants et de jeunes dans leur scolarité. Un grand merci à Philippe, à la technique de cette émission. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à la parole aux associations, il vous suffit de nous contacter à l'adresse mail suivante contact@csa95.com. Au revoir Alain.
Au revoir Audrey.
C'était Audrey Lamouly sur IDFM Radio Anguin. Je vous donne rendez-vous vendredi 21 février à 14h. Je recevrai les Rubies du Parisie et on parlera donc rugby. Bonne fin de semaine à tous et à bientôt.
Musique, bon plan, invité et surprise. La seule émission pour les enfants, c'est ici et nulle part ailleurs.
Salut, c'est Oui Oui, j'écoute Casse-Noisette avec Christophe.
Tu
Jerry nous a trouvé une super mission pour nous, les Spies. Clover, Alex et moi, on est sur Casse-Noisette.
Le samedi de 7h à 9h, Casse-Noisette, c'est l'émission de la famille sur Radio Anguin, la radio du bien-être.
Avec Christophe.
Salut à toutes et à tous, ici Jean-Philippe Doré. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches soirs de 22h à 23h pour Rock Power. IDFM 98 MHz à la puissance rock, le rock dans tous ses états et dans tous ses éclats, depuis le début des années 1970 et jusqu'aux années 80 et même 90, sur IDFM 98 MHz. Wow.
Big Bang, c'est un thème et des chroniqueurs, sorties, ciné, beauté, high-tech et news. Retrouvez-nous tous les samedis à 20h.
À quoi peut ressembler le visage d'une momie après 3000 ans? Pour se faire une idée, je vous invite à taper Bernadette Chirac sur Google Images. J'espère que la momie m'en voudra pas pour la comparaison.
Big Bang, c'est tous les samedis depuis 1997 sur les 98 FM ou sur l'appli ou le site Big Bang.
Station.